Les rendez-vous de Bernard Roth, Senior Advisor IEIF et membre de l'Académie d'architecture.
Xavier Lépine, vous avez participé activement à la commission REPSAMEM pour la relance durable de la construction de logements. Elle a délivré ses préconisations en deux tomes, mesures financières et fiscales d'une part et autres mesures d'autre part. Évidemment, ce n'est pas le premier rapport qui vise à libérer la construction de logements, mais pouvez-vous nous dire votre point de vue par rapport à ces conclusions, vous qui l'avez vécu de l'intérieur, et peut-être tout particulièrement en ce qui concerne un point particulier qui est la transformation de logements en bureaux, qui va probablement devenir un sujet important. J'avais relevé dans une de vos déclarations la citation de Mark Twain, je cite, c'est avec les vaches sacrées que l'on fait les meilleurs hamburgers. Alors, vous allez nous transposer ça.
Oui. Il y a plusieurs points. Le premier point, effectivement, c'est comment faire. La commission REPSAMEM a très bien travaillé et effectivement a donné un certain nombre de pistes très, très concrètes pour relancer cette fameuse construction de logements en constatant que l'une des grandes difficultés, c'était l'obtention de permis de construire, puisque celle-ci est délivrée par comme vous le savez, par les maires, et qu'entre les années d'élection, entre la volonté certains de ne pas faire d'artificialisation nette, enfin on connaît tous maire bâtisseur maire battu, on connaît les difficultés de zéro artificialisation nette, et il y a aussi un tout petit peu l'idée le promoteur n'est pas quelqu'un qui est beaucoup aimé dans la société française. On connaît tous, on dit d'un bon avocat, mauvais voisin. Il y a même pas de contrepartie pour les promoteurs du bon promoteur. On a toujours l'impression que c'est quelqu'un qui gagne de l'argent sans faire beaucoup. Donc il y a l'idée de revaloriser effectivement cet acte-là. Parce qu'il est indispensable, effectivement, de construire. Alors, ça, c'est bien. Je dirais que je reviens sur un des thèmes centraux, mais qui est extrêmement politique et qui est très, objectivement, très complexe à arbitrer et qui ne se fera pas dans ce cadre-là, qui est celui de la délivrance du permis de construire. On sait qu'en 1982, on a eu les lois de décentralisation, donc on a passé cette décision de permis de construire de l'État aux élus, finalement. Et finalement, on s'aperçoit maintenant, 40 ans plus tard, que forcément, si vous avez, il y avait un excès de pouvoir d'un côté, est-ce qu'il n'y a pas un excès de pouvoir de l'autre? Parce que finalement, on s'est concrètement aperçu que entre 50 et 70% des permis de construire déposés n'étaient pas validés, alors qu'ils sont conformes au PLU. Donc, il y a quand même un véritable sujet. Alors, pourquoi faire des PLU dans ces cas-là? Non, je pense que l'une des voies, ce que font d'ailleurs beaucoup de pays, ça consiste à séparer finalement les deux décisions entre celui qui autorise et qui dessine finalement la ville qu'il souhaite, qui est clairement du domaine de la municipalité, en tout cas des gens de terrain et des élus, effectivement, c'est très bien, et qu'un PLU conforme devrait être finalement approuvé peut-être par une entité administrative indépendante, et que ce soit au niveau du préfet, de la région, de qui on veut, mais d'une personne qui n'est pas élue, mais d'une personne qui vient vérifier et cocher les cases, est-ce que cette demande de construction est-elle conforme ou pas à la volonté des parties qui ont dessiné le PLU. On n'en est pas tout à fait là aujourd'hui, est-ce qu'on ira jusque-là? C'est pour moi, ça serait un acte de libération extrêmement fort de la construction. Ça, c'est au niveau des autorisations. Ensuite, la grande difficulté aujourd'hui, et on voit ce qui s'est passé en matière de logement, c'est on a construit en l'espace de 35 ans, c'est-à-dire à peu près depuis que ces lois de décentralisation, on a doublé le nombre de logements de résidence principale. On a augmenté de 20 à 30 millions le nombre de logements de résidence principale, alors que la population n'a augmenté que de 35%. Bon, alors effectivement, on n'a pas tout à fait bien calibré par rapport à l'accroissement de besoin de logement, hein, du fait de l'allongement de la durée de la vie et de la multiplication des séparations, mais on y a quand même eu un effort. Mais là, on ne s'est pas préoccupé finalement du passif, c'est-à-dire qui détient ces logements. Alors, donc on a progressivement augmenté de 70% les logements sociaux, ce qui est bien, mais pour autant on en manque, et on est le pays d'Europe qui a probablement, peut-être même le pays au monde, qui a le plus de logements sociaux, et ça ne marche pas, et on a augmenté seulement, alors il y a eu beaucoup d'utilisateurs acquéreurs, puisqu'on est passé de 52 à 58% de propriétaires, mais finalement on n'a pas beaucoup augmenté le nombre de logements libres à la location. Et surtout, comme ces logements sont devenus de plus en plus chers, de moins en moins rentables, parce que de plus en plus contraints, l'État a été amené aussi de son côté à les subventionner par des lois type loi Pinel, et donc une sortie des investisseurs institutionnels de la location libre. Donc, ça a des conséquences finalement macroéconomiques qui sont assez désastreuses, puisqu'on en manque. Donc il faut repenser, si vous voulez, pour moi, il faut repenser le qui détient ces logements. Il faut que le logement redevienne une classe d'efficacité économique normale, d'actifs normal, qui est un rendement naturel et non pas un rendement subventionné comme on le fait aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il est subventionné par le logement social, il est subventionné par la loi Pinel. Mais je veux dire, pourquoi le logement serait-il un actif? Il faut que cet actif soit naturellement rentable. Et donc ça, il y a un énorme travail effectivement à faire là-dessus. C'était pas l'objet de la commission Rebsamen, mais ça reste complètement à imaginer et à développer.
Alors ça, on va parler peut-être après des financements, mais ça me conduit à vous interroger sur la question de la propriété. J'ai en tête un vieux jingle et un vieux slogan vintage des années 70, propriétaire à la mer, propriétaire à la montagne. Je lis sous la plume de Vincent Lerouzic, qui est un chercheur, d'ailleurs entre parenthèses boursier Palladio, qui écrit dans la revue Esprit de septembre 2021 et qui vous cite, Xavier Lépine. Il vous cite en disant: nous serions, selon vous, entrés dans une période de post-propriété. Que vous décrivez, nous dit-il, par l'idée d'une propriété à plusieurs degrés. Alors, qu'est-ce que c'est, cette idée ?
Bien, c'est l'idée que la propriété, c'est pas ringard en tant que tel, parce que à la différence de beaucoup de biens, une voiture, on peut s'en passer à un certain moment de sa vie, donc on peut effectivement se dire je vais uniquement la louer ou payer. Vous avez remarqué que par exemple en matière de voitures, avant les gens étaient tous propriétaires. Aujourd'hui, on ne met même plus sur la pub le prix de vente. On met le prix tous les mois pendant X années. Ce qui a été une évolution assez radicale, mais ce qui est lié aussi au fait que finalement le montant à investir dans une voiture par rapport à l'utilité qu'on en a. Quel est l'intérêt d'en être propriétaire. Donc on voit qu'on est progressivement passé dans une civilisation, qu'on passe dans une civilisation de la propriété à celle de l'usage. On n'achète plus de DVD, on fait du streaming, on n'achète plus sa voiture. Que peut-il en être de son logement? Alors le logement, il a trois fonctions. Il a une fonction d'usage, à l'évidence, puisqu'il faut se loger quelque part, tout le monde en a besoin. Il a une fonction, quand on est propriétaire, de préparer la retraite, parce que quand on est à la retraite, on a une très grosse chute de son revenu, et donc si on a fini de rembourser son crédit, on a un toit, donc ça, on se sent mieux, et puis de transmettre à ses enfants. Donc ça, c'est l'idéal, mais et c'est ce qu'on aurait pu souhaiter. Le seul problème, c'est que les prix des logements dans les zones tendues, une fois de plus, il était multiplié par 10, alors que les revenus, ils n'ont pas été multipliés par 10 depuis 40 ans, loin s'en faut. Donc, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc, on est obligé de s'adapter par rapport à ça et de dire à quoi faut-il renoncer pour rendre possible finalement cette situation. Je veux dire, socialement, et donc il y a une réalité, c'est que il y a 40 ans, les mêmes 40 ans, les gens héritaient en moyenne à 42 ans, 43 ans. Aujourd'hui, ils héritent en moyenne à 55 ans. Donc déjà, le besoin n'est plus tout à fait même, les enfants ont un tout petit peu grandi, etc. Donc la réflexion qu'on peut avoir, c'est est-ce qu'il faut démembrer la propriété dans l'espace, donc c'est tous les systèmes de démembrement du foncier par rapport au bâti, et c'est effectivement le développement du bail réel solidaire. Là, on est dans le cadre du logement social, c'est-à-dire c'est un coût pour la société, parce que quelqu'un renonce au rendement du foncier, ou démembrer dans l'espace, donc c'est, vous savez, c'est les systèmes comme développent nos amis d'Acker, de dire j'achète en partie mon logement aux côtés d'un institutionnel qui me loue la partie dont je ne suis pas propriétaire, ou est-ce que je fais un démembrement dans l'espace en disant j'achète pour une certaine période qui peut être une cinquantaine d'années donc grosso modo une belle espérance de vie et qui me permettrait de finalement en renonçant à la transmission de baisser considérablement le prix, de rendre ce bien de nouveau financièrement acquérable, et surtout de satisfaire ces deux fonctions essentielles et clés qui sont la fonction d'usage et de préparer quand même quelque part sa retraite. Voilà, c'est ce type de réflexion. On a la chance aujourd'hui, et c'est peut-être un bien pour un mal. La crise du Covid nous a clairement annoncé qu'on allait avoir des taux d'intérêt bas pendant, pas forcément aussi bas, mais bas pendant très longtemps. Donc des biens à intensité capitalistique peuvent être ainsi financés de façon différente que quand les taux d'intérêt étaient à 5%. Le Covid nous dit aussi on va passer plus de temps chez soi et un peu moins de temps au bureau, donc on a besoin de je ne dis pas que le bureau n'a été qu'une parenthèse dans l'histoire de l'humanité. Il y aura toujours des bureaux, en tout cas au 21e et au 22e siècle, mais la répartition de l'espace et la répartition du temps mérite d'être questionnée et de savoir comment est-ce qu'on va s'organiser socialement. Et une fois de plus, on peut s'organiser en subissant ou en étant proactif. Alors, ça sera un peu des deux. On va subir, ça c'est clair. Et puis, on va constater petit à petit que les modes, les comportements changent.
Alors, pour être proactif, au fond, la clé, c'est le financement. Et en particulier, je voudrais que vous nous disiez, pour conclure, quelques mots du financement privé et du financement vert. Récemment, dans un autre article, vous avez déclaré le nouveau code, c'est objectif 2 degrés et impact social, ISR et ESG. Alors, ma question pour conclure, c'est pouvez-vous nous résumer et nous donner quelques perspectives de la finance à impact, parce qu'on sent bien que c'est en train de craquer, que c'est en train de basculer. Mais je ne suis pas sûr que le concept soit très clair pour tout le monde.
Alors, avant, on avait comme moteur de la croissance la baisse des taux d'intérêt et la mondialisation. C'est très clair, ça c'est les années 90, 2000, même 2010. La baisse des taux d'intérêt, ils vont peut-être pas remonter, mais ils vont pas continuer de baisser, donc c'est terminé. Et la mondialisation heureuse, si je puis dire, elle a surtout été heureuse pour les consommateurs, mais elle n'a pas été très heureuse pour les personnes qui produisent en Occident. Donc on s'aperçoit là aussi que les relocalisations, la volonté, je parler du plan 2030 du président Macron, mais c'est quand même une réalité dans tous les pays développés qui se rendent compte que c'est bien d'être, de faire de l'innovation et de faire de la distribution, mais qu'il faut que si on n'a pas tout l'aspect production sur place, ça pose un gros problème. Donc tout ça, c'est l'idée de trouver dans la transformation énergétique de la relocalisation et de faire de la croissance nationale et non plus de dire je suis très vertueux parce que j'émets pas beaucoup de CO2 dans mon pays parce qu'il était mis à l'autre bout de la planète, c'est eux qui nous produisent et c'est nous qui consommons. Donc ça c'est là où pour la première fois il y a convergence d'intérêts entre l'impact environnemental de réduire les émissions de carbone et un impact social de créer des emplois locaux. Alors ça c'est le concept général. Donc maintenant, soit on fait ça en disant une fois de plus ça coûte de l'argent. Et puis, ça va encore augmenter le déficit. Bon, au point où on en est, disait l'autre, c'est pas forcément très grave. Soit on pense que, au contraire, toutes ces technologies, tous ces modèles, toute cette finance qui peut être mise en place au service de la collectivité, une fois de plus, parce que les taux d'intérêt sont bas, peuvent se faire dans une dynamique de rentabilité. Là, je renvoie par exemple à Solar Impulse, donc la fondation de Bertrand Piccard, qui très clairement labellise uniquement des produits et des solutions et des entreprises qui ont un impact. Alors avoir un impact positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de réduction d'émissions, c'est des solutions technologiques et ou financières qui permettent effectivement d'avoir un impact positif sur la planète en étant rentable et non pas en étant subventionné. C'est-à-dire que par rapport à il y a quelques années, quand des gens comme moi venaient dire aux investisseurs on va faire du vert, bon, d'abord ils y croyaient pas, mais j'ai peut-être pas toujours tort d'ailleurs, mais surtout ils disaient bon c'est bien, mais combien ça me coûte? Aujourd'hui la grande différence c'est, et on le voit bien, c'est combien ça me rapporte, c'est-à-dire combien ça va me rapporter. On voit bien que c'est devenu un champ d'investigation qui permet de gagner de l'argent, et c'est là où, parce que faut pas être naïf. De dire d'un seul coup on est tous devenus vertueux et on va tous se sacrifier pour la planète. La grande force du GIEC, c'est d'avoir fait prendre conscience que le problème n'était pas dans 70 ans ou dans 80 ans, mais qu'il était dans 10 ans. Et d'un seul coup, la valeur présente de ce risque-là fait changer totalement les mentalités. Et si je reprends l'exemple de l'immobilier, l'immobilier, sa grande caractéristique, c'est qu'il est immobile et local. Il n'est pas soumis à la concurrence internationale, donc on voit bien que les normes en matière climatique et environnementale vont s'imposer très clairement sur l'immobilier. Et c'est le cas avec le RE 2020.
C'était Xavier Lépine, président de l'IEIF, qui nous a permis de nous sentir plus intelligents. Merci Xavier, à bientôt j'espère.
Au revoir.
Les rendez-vous de Bernard Roth, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.